Une crise agricole au Québec vers la fin des fermes laitières traditionnelles. Point d'interrogation. Il s'agit d'un ouvrage facile d'accès dans lequel les auteurs Simon Bégin, Yann Turmin et Yannick Patelli affirment que la gestion de l'offre doit être sauvegardée, mais que l'on doit y apporter des changements, des modifications, qu'on doit la moderniser, lui donner de la souplesse. Les auteurs s'interrogent aussi sur la gestion de ce système de contrôle de la production et de la mise en marché. Aussi, se demandent-ils, la petite ferme laitière va-t-elle disparaître du paysage québécois? Et les grosses fermes, peut-on encore les qualifier de familiales? Trois personnes étaient invitées à débattre de ces questions inspirées du livre. Jacques Proulx, ex-président de l'Union des producteurs agricoles et de Solidarité rurale, Alphonse Pittet, producteur laitier en Mauricie, et Dominique Lamontagne, entrepreneur, revendicateur et auteur de « La ferme impossible ». Et c'est moi qui animais le débat. Je lance le débat, formule très courte qui ne donnera pas lieu à toutes les nuances nécessaires, je pense, mais quand même, on va pouvoir avoir quelques bonnes idées de ce que les gens dans différents contextes peuvent penser et du livre et de ce qu'il affirme, ce livre. Et je commencerai avec M. Dominique Lamontagne. Le livre, M. Lamontagne, parle de moderniser la gestion de l'offre. Vous souhaitez, je pense, œuvrer, travailler, vous souhaitez voir les choses se passer plus en dehors de la gestion de l'offre.
En fait, c'est que j'aimerais qu'il y ait à l'extérieur de la gestion de l'offre possibilité d'agir. La gestion de l'offre, pour moi, c'est un système qui favorise une forme d'agriculture, une agriculture qui se concentre sur la production d'un produit générique, le lait, le poulet, les œufs. J'ai l'impression qu'ils sont destinés à un marché comme les supermarchés, un marché de gros. Les Québécois réclament principalement un prix abordable. Ils ne sont pas encore nécessairement sensibilisés aux autres aspects que l'agriculture peut nous amener à investiguer. Donc, moi, ce que je réclame, la gestion de l'offre, il y a des mécanismes qui protègent le Québec. Ces mécanismes-là, je ne vois pas qui serait en désaccord avec eux. Protéger le Québec des États-Unis, de l'Europe, du reste du monde, oui. Protéger le Québec des autres Québécois, c'est là où, moi, j'ai un problème. J'ai toujours eu l'impression que les producteurs sous gestion de l'offre s'occupait de fournir une matière brute à une agence de mise en marché qui allait s'occuper de la vendre. Il y en a d'autres qui allaient la transformer. Donc, c'est des agriculteurs qui sont sur leur ferme, une ferme qui n'est pas nécessairement perméable à l'agrotourisme, aux visites, mais qui joue un rôle primordial pour l'alimentation de tout le monde. Moi, j'aimerais que la mise en marché locale, très locale, soit permise, que les gens qui sont intéressés à aller vers le producteur, lui acheter ses denrées, et le producteur lui-même de vendre ces denrées-là à ces consommateurs-là, que ça soit permis alors que là, c'est illégal.
Monsieur Pittet, vous, comme producteur de lait, est-ce que vous pensez faisable, sans dénaturer la gestion de l'offre, vous pensez faisable de l'ouvrir davantage, de permettre des productions hors quota, d'aller un peu dans le sens de ce que disait Monsieur Lamontagne?
Bien, ce que Monsieur Lamontagne ne dit pas, c'est que l'ouverture est déjà faite. Au niveau des producteurs d'œufs, tout dernièrement, il y a eu certains quotas qui ont été libérés. Évidemment, ça ne sera jamais assez. Est-ce que c'est souhaitable? C'est tout un débat. Évidemment, moi, comme producteur de lait qui est actif dans ce secteur depuis carrément 40 ans, avec tout l'argent, l'énergie qui a été investie, c'est une discussion qui est très difficile à aborder parce que c'est comme si on vient chercher quelque chose qui nous appartient, dans lequel on a investi, nos familles ont investi énormément. Par contre, d'un autre côté, est-ce que ça va nécessairement accaparer énormément de parts de marché, surtout dans la production de lait? C'est à discuter. Parce que vous savez, garder des vaches, être présent 7 jours sur 7, c'est bien différent d'élever des poules ou d'élever du poulet. Fait que de ce côté-là, au niveau des producteurs de lait, il y a peut-être une grande discussion à faire, il y a peut-être beaucoup d'amateurs, mais de là à ce que la réalisation soit faite, je suis pas convaincu. Par contre, ces petits marchés locaux, je pense que nous, à l'intérieur de la gestion de l'offre, comme elle existe actuellement, on est tout à fait capable de les fournir. Moi, je le vois dans ce sens-là. La discussion avec ces groupes-là, elle s'avère très ardue entre ces deux-là, et moi, j'en suis un qui ne céderait pas facilement cette partie-là.
Monsieur Proulx, la gestion de l'offre, elle a été bénéfique au monde agricole, dans les trois secteurs, le lait, les œufs, la volaille. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut la réformer, cette gestion de l'offre, de façon à ce qu'elle reste un outil de protection pour les agriculteurs, d'une part, mais qu'elle soit aussi et qu'elle peut-être redevienne davantage un outil de développement, un outil qui nourrirait le tissu rural québécois?
Bien, écoutez, c'est sûr que ça a été bénéfique. Écoute, on n'a rien qu'à regarder le développement qui s'est fait au fil des années autour de ça. Moi, j'ai dit depuis fort longtemps que la gestion de l'or, ça aurait été mieux connu, on aurait dû l'appliquer, on devrait l'appliquer à la grandeur de la planète. On n'aurait pas les aberrations qu'on a à l'heure actuelle et on devrait faire un effort, justement, pour négocier. Le gouvernement devrait, justement, dans les négociations à l'heure actuelle, faire en sorte que ce modèle-là devrait s'appliquer pour créer justement cette sécurité alimentaire qu'on a besoin et que tant de pays souffrent à l'heure actuelle. Est-ce qu'elle doit être réformée? Bien, c'est évident. Et je pense que c'est une des lacunes importantes aujourd'hui. Ça fait partie des récriminations, avec en bonne partie justesse, qu'on a oublié en cours de route d'adapter à des réalités et surtout d'adapter pour qu'elle joue pleinement le rôle qu'elle doit jouer, justement, de créer cette prospérité-là sur notre territoire.
Et je pense qu'il serait difficile d'ajuster les points de vue entre M. Lamontagne et M. Pittet, par exemple, sur la façon de modifier, de moderniser cette gestion de l'offre. Vous, c'est un, M. Pittet, c'est un non catégorique. La gestion de l'offre ne doit pas s'ouvrir à des productions hors quota, là, disons-le carrément.
Moi, j'ai l'impression qu'on ne peut pas passer à côté du débat. L'ouvrir, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est l'ouvrir sans contrôle? Parce qu'il faut bien comprendre que nous, les producteurs de lait en place, avons mis énormément d'énergie, énormément d'argent en publicité dans les achats de quotas. C'est quelque chose qui n'est pas très aimé, mais ça fait partie de la réalité. Puis tout à coup, il faut l'ouvrir à un ensemble de producteurs qu'on ne connaît pas vraiment. On ne sait pas trop comment ils vont gérer cette production-là. C'est toute une discussion. Il y a l'autre discussion, la biosécurité qu'on est en train de mettre en place dans nos étables. Est-ce que ces petites productions-là vont avoir les moyens de la gérer, la biosécurité? C'est un exemple parmi d'autres. Moi, ça me préoccupe énormément, cette discussion-là. Puis, c'est ce que j'ai dit au début. N'oublions pas qu'il y a déjà un pas qui est fait. Les producteurs de volailles ont fait une ouverture. Les producteurs de lait, pour le moment, on n'est pas vraiment interpellés. On va le devenir. Moi, je veux faire partie de ce débat-là et avant d'en laisser passer, je veux avoir beaucoup, beaucoup de certitudes comme tous mes collègues.
La biosécurité, dans un contexte de mise en marché comme celui que vous souhaitez, M. Lamontagne, c'est un élément important. Il y a moyen de produire dans de vraiment petites entreprises laitières et la conception que vous avez de la ferme souhaitable, pour vous en tout cas, c'est vraiment la famille d'abord. On approvisionne la famille.
Si on faisait un débat, là, on échangerait des idées, puis je répondrais à ce que tout le monde dise. Là, c'est chacun son tour. Je veux dire, moi, pour moi, la ferme familiale, ça a une toute autre définition que celle que j'entends souvent. Moi, mon point de vue, c'est celui du citoyen. C'était un point de vue extrêmement naïf au début où j'ai appelé l'UPA. J'ai dit, j'aimerais avoir 2 vaches, 200 poules, 500 poulets, faire ma petite affaire de mon bar. Ils ont dit, ouais, ça va te coûter 375 000 piastres. En quotas. Les quotas ne sont pas nécessairement disponibles. Je me fais dire, allez donc dans la pintade, le canard, des trucs qui ne sont pas sous gestion de l'offre. Puis là, je dis, bien, les gens, ce n'est pas ça qu'ils veulent. Les gens veulent boire, ils ne veulent pas boire du lait d'ânesse, puis de manger du confit de pintade. Ils veulent du poulet, des œufs, puis du lait. Moi, je pense que la biosécurité, si on veut parler de traçabilité, finalement, de l'obsession du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, pour moi, c'est une question de taille. Pour moi, plus le consommateur est proche du producteur, plus il peut être à même de voir comment se fait la production. Les grandes fermes sous gestion de l'offre sont très rarement visitables par les consommateurs. Il y a des raisons à ça. Je ne suis pas contre ça, mais moi, j'ai l'impression que si quelqu'un m'approche en connaissance de cause, qui veut mes œufs, qui veut mon poulet abattu à la ferme, ce sur quoi je travaille très fort avec le MAPAC, pour avoir justement une zone d'interaction entre l'acheteur puis le vendeur, zone qui existait à l'époque où la ferme était pluriproductrice puis jouait un rôle actif dans la communauté, alors qu'aujourd'hui, comme je l'expliquais tantôt, je vois la ferme comme un endroit où on ne peut pas aller. Puis je vois la ferme comme vendant des produits à l'extérieur du village. Je vois des vaches dont les gens qui habitent à côté ne pourront jamais goûter le lait pour plusieurs raisons. Moi, j'essaie de ramener ça à une taille compréhensible par moi, qui n'est pas issu d'une famille traditionnellement agricole, mais qui s'intéresse beaucoup à l'agriculture. Ayant commencé par la restauration, je me suis intéressé après d'où venaient ces produits-là. Puis quand j'ai voulu tenter ma chance, je me suis rendu compte que les lois qui régissent la restauration elles ne sont pas du tout les mêmes en agriculture. Donc, le MAPAC, finalement, qui est très présent au niveau de la restauration, s'en remet complètement à l'Union des producteurs agricoles au niveau de la législation, à travers la loi sur la mise en marché des produits agricoles, qui a créé cette sainte trinité-là que j'appelle la régie des marchés agricoles, les offices de mise en marché puis les plans conjoints. Ces trois éléments-là permettent à une association de personnes privées de dicter les règles du jeu. Bon, pour fournir un marché pour lequel les Québécois demandent des aliments, mais est-ce qu'il n'y a pas possibilité? Moi, c'est en parallèle que je m'inscris à tout ça, pas en perpendiculaire ou en opposition à. Moi, c'est en parallèle. Je me demande pourquoi est-ce que quelqu'un qui voudrait avoir une ou deux vaches puis tenter sa chance avec ça n'ait pas le droit de le faire, n'ait pas le droit d'être ultimement jugé par la qualité des produits qui sortent, n'aient pas le droit de faire analyser ces produits-là pour voir la valeur nutritive, pour voir la population de pathogènes qu'il y a. Puis moi, je pense que des produits à petite échelle peuvent, oui, être très sécuritaires. Il faut juste donner la chance aux coureurs, là.
Monsieur Proulx, dans diverses discussions, vous avez énoncé ces dernières années que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation s'était peut-être dangereusement, non seulement peut-être, mais vous disiez constater que le MAPAC s'était retiré dangereusement de la vie agricole, du monde agricole, et pour laisser beaucoup de place au secteur privé dans toutes sortes d'activités de gestion, de soutien auprès des agriculteurs.
Bien, je pense qu'on a un bel exemple avec la discussion qu'on a à l'heure actuelle. Graduellement, on n'a pas pris ses responsabilités comme ministère de l'Agriculture de s'assurer la bonne gestion, en fait, de ces différentes politiques-là. On se retrouve aujourd'hui avec des mesures qui sont extraordinaires, mais parce qu'on a refusé le débat, parce que les ministères de l'Agriculture, tant provincial que fédéral, chacun dans leur sphère d'activité, n'ont pas pris leur responsabilité de forcer le débat, justement, puis il y avait l'autorité, en fait, pour s'assurer que le bien commun était protégé à l'intérieur de ça. Alors, il faut bien se le dire, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation très précaire parce que les ministères, particulièrement le ministère de l'Agriculture, moi, j'ai eu la chance, d'un an, j'ai eu la chance de vivre tout ça, en fait. J'étais là quand on a mis ça en place, j'ai travaillé pour ça. Je continue d'être un partisan très féroce de ces grandes politiques-là, à condition qu'on les réorganise, qu'on fasse de la place justement pour la nouveauté, pour les produits de créneau, pour justement permettre d'utiliser adéquatement les terres qui sont là. M. Proulx l'a soulevé, au-delà de 50 % des terres agricoles à l'heure actuelle sont inexploitées, sont en friche ou appartiennent à des gens qui n'ont aucunement haute intention que de faire de la spéculation avec. C'est complètement inadmissible dans un pays comme le Québec d'accepter que cela continue. C'est pour ça qu'il est urgent de faire des bonnes discussions pour justement ôter un peu de place à ces vautours qui préconisent le libre marché à tout craint, tout le temps nous fournissant que ça va être pour le mieux-être de tout le monde et en oubliant de dire que oui, il y a des gagnants, mais oui, il y a des perdants aussi. Et à l'heure actuelle, nos grandes politiques, que ce soit la gestion de l'offre, que ce soit la stabilisation, que ce soit le zonage agricole, ça, c'est des piliers de l'agriculture du Québec. Et comme on refusait, c'est devenu tellement corporatif, et je reproche beaucoup au ministère de ne pas s'être mis pieds à terre, puis d'arrêter, justement, d'attendre que peut-être que le temps arrangera ces choses-là. Et je pense que le livre, d'ailleurs, comme tu le disais tout à l'heure, il m'a rien appris, moi, le livre, parce que je l'ai vécu, mais ça m'a rafraîchi drôlement en mémoire. Et je pense qu'on aurait intérêt à le donner, quitte à le donner, à des gars à du monde comme l'Institut de Montréal ou Charlebois ou ainsi de suite, qui nous préconisent, parce qu'ils ne connaissent pas réellement les fondements de ça, puis c'est quoi les objectifs à atteindre avec ça. Puis c'est pas parce qu'il y a des lacunes, et oui, il y a des lacunes, que ce soit le prix, que ce soit l'oubli qu'on a fait d'adapter à une nouvelle réalité, c'est à corriger ça prochainement. Mais il faut revenir au bien commun avec ça, et c'est ça qui manque à l'heure actuelle.
Monsieur Pittet, dans le titre du livre, on parle de l'avenir, la fin possible des fermes, de la ferme familiale. Où est la limite entre une ferme familiale, une grosse ferme, une ferme d'entreprise ou une petite ferme d'autosuffisance? Vous, vous êtes hors norme déjà. Vous avez un troupeau laitier qui est au-dessus de la moyenne. Pourtant, vous affirmez que vous êtes une entreprise familiale et que vous souhaitez le devenir, même si vous avez encore des visées pour grossir l'entreprise.
Effectivement, c'est une très grande fierté d'être capable de l'affirmer parce que je viens d'un milieu très rural, petit paysan suisse, immigré. Et cette tradition-là, je l'ai maintenue, ma famille l'a maintenue et on la transmet à nos enfants. Donc, cet objectif-là, dans mon cas, il est atteint. Et ça reste une ferme familiale. Ceci dit, la définir, la ferme familiale, c'est un des mandats de l'Institut. Moi, je pense qu'il faut vraiment se pencher sur cette question-là. Va-t-on être capable de la définir? Vous savez qu'il y a beaucoup de débats où on s'est déjà cassé les dents là-dessus, parce que ce n'est pas la première fois qu'on en parle. On veut la définir, la ferme familiale. Moi, j'ai peu d'espoir qu'on arrive à réellement la définir, parce que si vous traversez la frontière et puis qu'on discute avec nos collègues producteurs de lait aux États-Unis, avec 10 000 vaches, ces gens-là se considèrent comme entrepreneurs qui possèdent une ferme familiale. Peut-on leur reprocher? C'est la famille qui détient les actions. Fait que, allez la définir. Ceci dit, au Québec, tous les modèles sont possibles. Et puis, je pense qu'à l'intérieur de cette grande famille-là, on est capable de respecter tous les modèles. On le fait déjà. Il y a des très petites fermes. Il y en a comme la mienne, comme celle de ma famille, qui sont différentes. Puis, je ne pense pas qu'elles imposent énormément leur volonté aux autres. Ce qui fait que, oui, je veux être certain que notre ferme se classe dans la catégorie des fermes familiales. Et puis non, je n'apprécie pas ces groupes, on peut dire, de spéculateurs qui achètent nos terres sous des formes très différentes, dont le capital est plutôt flou. Ça, c'est une partie que je n'accepte pas du tout et qui a un impact dans certaines régions, mais pas partout.
Je pense qu'il faut s'enlever de la tête qu'on va pouvoir mettre la ferme familiale dans un cadre et l'accrocher au mur. Ça peut pas, on va se casser les dents encore une fois. Je pense qu'il faut l'aborder de la façon comment qu'on adapte les politiques en fonction des entreprises. Et à partir de là, en ordre croissant ou décroissant. Moi, j'ai bien de la misère à accepter. Moi, prendre l'exemple de la stabilisation, par exemple. On sait qu'il y a des gens qui possèdent beaucoup, qui font faire du port à forfait, qui retirent entre 30 et 40 millions de subventions par année. Ça aurait de la misère à... Puis c'est une entreprise familiale. Il ne faut pas oublier que McCain, c'est une entreprise familiale. Les grandes transnationales, la plupart se disent des entreprises familiales. Alors moi, je pense qu'il faut regarder attentivement comment qu'on va adapter les politiques en fonction des fermes agricoles au Québec. Et d'y aller par ordre. On l'a déjà regardé, on l'a déjà abordé, ça a vraiment été plus loin. Et c'est là, je pense, qu'un des reproches que fait souvent le ministère de l'Agriculture, c'est là qu'il va falloir qu'ils se mettent les pieds à terre puis qu'ils soient capables, justement, de jouer un rôle de leadership à l'intérieur de ça.
Le temps file, mais je veux quand même terminer avec M. Lamontagne. Pour vous, il y a une limite à la ferme familiale. Pour vous, une entreprise, même si elle place pour tous les modèles, une ferme familiale, c'est quoi? C'est en bas de 50 vaches, c'est pas plus que 200, c'est quoi? Ce serait quoi?
Bon, je suis d'accord que le débat sur la définition de la ferme familiale est peut-être à faire. Pour moi, le terme familial, quand on parle d'une entreprise familiale, on va dans un petit village, puis il y a un petit restaurant qui est tenu par les parents, les enfants. Pour moi, ça, c'est un restaurant familial. Je sais pas. Moi, j'ai tout le temps eu l'impression d'avoir à... Pour moi, c'est l'innovation puis la débrouillardise qui sont les outils les plus importants pour les entrepreneurs. J'ai tout le temps cru que le Québec était une terre favorable à l'entrepreneuriat privé, au fameux travail autonome. Puis pour moi, ces gens-là que j'ai côtoyés en restauration, en multimédia, en cinéma, en ce que vous voudrez, gèrent des tout petits budgets, des tout petits chiffres. Quand c'est des millions qu'on gère, je veux dire, ça peut être une ferme familiale quand même. Est-ce qu'elle a les mêmes espoirs au niveau de la mise en marché qu'elle a à faire? Je pense pas. En bout de ligne, par contre, je regardais à Statistique Canada les chiffres, les bénéfices d'exploitation, les revenus bruts. Une ferme qui brasse des millions de dollars, qui permet à des caisses de leur passer des dizaines, des centaines de milliers de dollars puis de générer de l'intérêt. Ces fermes-là, le revenu brut des parents puis des enfants qui habitent là, l'argent qu'ils vont dépenser, l'argent avec lequel ils vont arroser les régions, est comparable. Que ce soit une très grande ferme ou une très petite ferme, tout le monde font leur course à l'épicerie. Donc, je veux dire, c'est quoi le bénéfice pour les régions que d'avoir différents types d'entreprises? C'est à voir, mais chose certaine, aujourd'hui, c'est impossible de faire ce que je faisais en restauration, d'être un petit restaurant, pas une grande bannière. J'ai eu l'impression qu'en agriculture, on va favoriser la grande franchise plutôt que le petit indépendant. Puis moi, tout ce que je voudrais, c'est que les deux puissent cohabiter, là. Le terme familial, j'ai l'impression, est utilisé à toutes les sauces Et puis oui, traversons-la la frontière. Quand on va au Vermont, les producteurs ont le choix de vendre leur lait à des coopératives ou à des compagnies, d'adhérer à un système qui ressemble au nôtre, mais ils ont aussi le choix de vendre leur lait cru à la ferme, parce qu'aux États-Unis, c'est permis dans le trois quarts des États, alors qu'ici, c'est interdit de mur à mur. Et puis, il y en a qui choisissent de faire de la crème glacée dans leur petite entreprise, puis de la vendre aux passants. J'aimerais avoir ce droit-là ici. Il y a beaucoup plus de droits aux États-Unis. Là, on voit Trump se faire élire, puis on se dit « mon Dieu », mais en même temps, ce qui se passe à un mètre d'une ferme québécoise au Vermont est complètement différent. Est-ce que c'est mieux? Je sais pas.
On se trouve à avoir mis la table, en fait. Le débat pourrait se prolonger et l'argumentaire se développerait. Nous l'avons voulu, ce débat. Les gens de l'Institut ont voulu ce débat comme étant une démonstration très brève, succincte, de ce qui peut et ce qui devrait se faire sous chapeau de l'Institut Jean Garon. Donc, merci, messieurs, pour avoir participé à cet exercice rapide, et j'en suis conscient qu'il ne règle rien ce matin, mais merci beaucoup de vous être prêté à l'exercice. Monsieur Jacques Proulx, ex-président de l'Union des producteurs agricoles et de solidarité rurale, monsieur Alphonse Pittet, producteur laitier en Mauricie, et monsieur Dominique Lamontagne, auteur, entrepreneur et revendicateur. La ferme impossible, le livre de M. Lamontagne. Donc, merci à tous. Ici Lionel Levac. Le débat aurait facilement pu durer 1h30 ou davantage. Mais, pourrait-on dire, il s'agissait d'un débat réel, certes, mais d'un débat de démonstration. Au revoir.